La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Beth-Shazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Dieu expliqua toutes les visions et tous les songes. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qu'ils réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Bientôt les 50 ans depuis mai 68, paraît qu'on fête ça en faisant grève. Mais cette révolution culturelle a impacté beaucoup de choses, comme vous savez, y compris la place de la foi et de la religion dans la société. Alors c'est sûr que cela n'a jamais été facile d'être chrétien, mais c'est vrai que depuis certaines évolutions dans la société, notamment dans les 50 dernières années, le chrétien peut se sentir encore plus un étranger, un exilé, en tout cas en France, en Occident. Il y a 50 ans, on n'était pas bizarre d'aller à l'Église, ce n'était pas contre-courant de croire en Dieu, mais maintenant, on l'est de plus en plus. Sur votre campus, sur votre lieu de travail, sur la télé, la foi chrétienne n'est pas accueillie gentiment. C'est même parfois vu de très mauvais œil et vous subissez des pressions. Alors à cela, on peut dire bienvenue, bienvenue à Babylone, tout comme Daniel et ses amis. Bienvenue à Babylone. C'est pourquoi le livre de Daniel est vraiment encourageant pour nous. Daniel et d'autres exilés juifs se trouvent à Babylone. Et Babylone, c'est la capitale du monde païen, c'est la capitale du monde anti-Dieu. Alors ce livre est un manuel de survie pour le croyant, pour le chrétien qui veut vivre sa foi dans un contexte qui cherche souvent à étouffer cette foi, dans un contexte qui est souvent hostile, comme nous pouvons encore le vivre de nos jours. Alors la question ce matin, comment vivre notre foi dans ce monde? Quelle est la démarche chrétienne lorsque nous nous trouvons un peu comme des exilés dans ce monde, des étrangers sur cette terre, tout comme Daniel et ses amis? Eh bien, Dans ce chapitre, nous allons voir qu'il y a plusieurs démarches pour garder notre foi et pour être une bénédiction à notre entourage. La première chose, c'est de ne pas se retirer du monde. Les premiers versets donnent quelques détails historiques pour expliquer comment Daniel et ses amis juifs se trouvent loin de chez eux, dans un pays étranger. Donc c'est historique que Nebuchadnezzar, l'empire babylonien, après a envahi Jérusalem et Israël. Et puis, sur une suite de temps, ils ont détruit cette ville. Et ils ont déporté de nombreuses personnes en exil en Babylone. Et donc Daniel et ses amis, ils se retrouvent là, pas chez eux, pas dans un contexte facile, pas où leur foi, leur Dieu est connu. Mais notez la place que Daniel et ses amis vont occuper dans la culture babylonienne. Ils vont travailler dans la fonction publique babylonienne. Ils vont même être très haut placés dans le royaume. Ce chapitre termine en verset 19 en disant qu'ils étaient admis au service du roi. Donc, ce sont des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire, ils vont travailler, certainement plus que 35 heures, ils vont travailler au service du roi qui a détruit leur ville. Ils vont travailler, conseiller, aider le roi qui a détruit leur ville, le roi païen qui a détruit leur ville. C'est remarquable. Le livre de Daniel n'est pas l'histoire de quatre amis qui vont se cacher dans un bunker au fin fond de la forêt, ou dans un monastère, ou dans une église, pour n'avoir aucun contact avec Babylone. Même en exil, même dans un contexte païen, Dieu place son peuple dans des endroits pour agir, pour bénir, pour conseiller, pour être une lumière autour d'eux. Ne pas se retirer complètement du monde. Parce que la tentation, pour eux, pour s'exiler, comme pour nous, c'est de penser que Dieu, il est absent, il a perdu. Que le monde païen est trop puissant pour résister, donc on va se retirer, on va se replier entre nous. C'est la seule solution. Regardez le verset 2. On apprend que le roi a emporté des ustensiles de la maison de Dieu. C'est des objets de culte. Nebuchadnezzar les a pris et les a mis dans la maison de son Dieu. Donc c'est comme des trophées de guerre. Et surtout, c'était important que ce soit des objets de culte qui rappellent leur Dieu. Il va mettre ces objets qui rappellent leur Dieu dans la maison de son Dieu. Et c'est une manière de dire, notre Dieu, vous voyez, est plus fort que votre Dieu. Parce que les objets de votre culte sont maintenant chez nous. Notre Dieu est plus fort que votre Dieu. C'est une humiliation, quelque part, du Dieu d'Israël d'agir comme ça. Alors, c'est sûr que c'est scandaleux, c'est sûr que Dieu va juger, dans quelques chapitres plus tard, Dieu va juger cet acte même. Mais Daniel et ses amis se gardent de développer un mépris hautain pour cette culture et pour leur entourage, même alors qu'ils doivent voir et subir le fait que leur Dieu, les objets de leur culte, qui sont importants et précieux pour eux, sont dans cet état. Parce que ils savent, encore selon le verset 2, que c'est le Seigneur qui fait tout ça. Verset 2 dit, le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar Joachim. C'était le roi de Juda, le dernier mauvais roi de Juda. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Donc, c'est le Seigneur qui a fait ça. C'est le Seigneur qui a dirigé toutes choses. Et Daniel et ses amis peuvent être convaincus que c'est Dieu, que c'est leur Seigneur qui les envoie en Babylone pour que ce Dieu puisse se faire connaître auprès aussi des Babyloniens. Alors, quel que soit le lieu où vous êtes, quelles que soient les circonstances qui vous y ont amené, parfois même des circonstances fâcheuses, vous pouvez toujours dire, je suis là par la volonté de Dieu. Je suis là où Dieu veut que je sois, d'une manière ou d'une autre. Je suis là où je suis, c'est là où Dieu veut que je sois. J'étais touché, j'étais avec les jeunes vendredi soir pour une soirée témoignage, et tous les jeunes pouvaient témoigner qu'à un moment ou un autre dans leur parcours de vie, parcours d'études, on se retrouve souvent, on se retrouve seul, loin parfois de la famille. Parfois c'est pas la distance, mais c'est la vie qui fait qu'on se retrouve entouré peut-être par des amis non chrétiens ou sans église ou loin de la famille, dans des situations parfois qui peuvent attrister, déprimer, mais de penser à Daniel et ses amis qui sont jeunes aussi. Le Dieu souverain l'a voulu. Alors Daniel, il va faire ce que Jérémie avait conseillé aux exilés. Vous êtes là, c'est pour une raison. Ça fait partie aussi du jugement de Dieu sur notre peuple, à cause du fait que nos ancêtres ont oublié Dieu. Mais vous êtes là, alors recherchez le bien de la ville où vous êtes. Recherchez le bien de Babylone. Impliquez-vous, servez, soyez une lumière. Et Daniel montre que c'est possible de vivre pour le royaume de Dieu, tout en habitant, tout en travaillant à Babylone. Dieu veut qu'il y ait des chrétiens qui vivent leur foi dans les universités, dans les professions séculières, dans des associations de quartier, pour être une bénédiction pour ce monde, pour vivre notre foi. Donc ne pas se retirer de ce monde. Ou bien peut-être vous avez grandi dans une culture, dans un contexte familial où la foi était bien plus présente et dynamique de ce que vous trouvez aujourd'hui à Toulouse, en France. Ce n'est pas l'heure de la nostalgie, ce n'est pas l'heure de l'amertume, ce n'est pas l'heure de la déception, c'est l'heure de vivre comme Daniel. C'est l'heure de dire, Dieu m'a envoyé ici à cette époque, dans cette culture, cette société, cette ambiance, pour vivre ma foi, pour être une bénédiction. Sachez que, quelle que soit votre situation, vous pouvez l'empirer en vivant dans l'amertume, dans le reproche, dans le repli, ou vous pouvez l'améliorer en cherchant à être une bénédiction, en vous attachant à Dieu et en disant, Dieu m'a placé ici pour une raison. Donc une première chose à faire, comme montre tout ce livre de Daniel, c'est pas se retirer du monde, se replier entre nous, mais d'être une bénédiction pour la ville, pour le monde. Ensuite, nous apprenons dans ce chapitre que pour vivre notre foi, dans un contexte parfois hostile, ou différent en tout cas, ne pas se retirer, mais non plus ne pas se compromettre avec le monde. Parce que là, il faut se rendre compte que le projet global de Babylone n'est pas le projet global de Dieu. Babylone et Dieu sont pas amis. Et c'est là où il faut être sage et avisé. Le projet de Babylone, comme nous voyons dans ces versets, c'est d'assimiler complètement les autres cultures pour mieux dominer. Ils ont toute une stratégie pour cela, que vous voyez dans les versets 3, 4 et 5. Ils prennent les futurs leaders, ils prennent ceux qui ont le plus de potentiel, les jeunes avec le plus de potentiel, donc ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont des familles nobles, et ils les envoient aux meilleures écoles, Université Babylone 1. Ils leur donnent des privilèges et des avantages très confortables et luxueux, manger à la table du roi, être dans les parages du roi, c'est super ça. Et puis verset 5, il leur donne des nouveaux noms aussi. Verset 7 plutôt. Il leur donne des nouveaux noms qui représentent, ils cherchent à leur donner une nouvelle identité. Et notamment, si vous regardez bien, les noms hébreux, le nom hébreu évoque le Dieu d'Hébreu. Daniel, elle, c'est le Dieu. Les noms hébreux évoquent les dieux, le Dieu des Hébreux, le Dieu de la Bible. Et les nouveaux noms babyloniens évoquent les dieux babyloniens. Donc ils veulent laisser aussi de leur faire oublier un peu leur identité et leur foi. Vous prenez par exemple Azaria, c'est le dernier dans la liste. Azaria, qu'on va lui donner le nom de Abednego. Azaria, ça veut dire l'Éternel est mon soutien. Abednego, ça veut dire serviteur du Dieu de la végétation. Alors vous pouvez dire, il n'a pas vraiment gagné dans l'échange, mais attention. Vous pensez à ces jardins suspendus du palais de Babylonien qui était un merveille du monde. Et voilà, le dieu de la végétation pouvait représenter bien plus que ce qui peut venir dans nos têtes, juste une petite plante. Là, c'était toute la luxe et la richesse de Babylone. Et là, il va pouvoir vivre au milieu de tout ça. Peut-être il va être bien plus confortable à Babylone qu'en Israël. Et l'idée pour eux, c'est de, leur donner une nouvelle, des nouveaux avantages, une nouvelle identité, tout comme la tentation pour les chrétiens. C'est oui, on affirme dans notre quotidien que l'Éternel est mon soutien. Mais dans la réalité, notre bonheur et nos joies viennent souvent des idoles et des valeurs de ce monde, l'identité que peut nous donner ce monde, les dieux de l'argent et du sexe, et de l'approbation des autres. En tout cas, voilà, hein, il se pose cette stratégie d'assimiler tout le peuple juif en passant par les futurs leaders, en leur donnant une nouvelle culture, une nouvelle identité. Et l'idée, c'est que si ces jeunes avec le plus de potentiel sont tellement imprégnés, sont épris, sont passionnés, sont gagnés à la culture babylonienne et tous ses avantages, ils vont pouvoir entraîner le peuple entier à adopter, à se conformer aussi aux valeurs et aux dieux babyloniens. Et c'est là où Daniel voit bien la stratégie. Il est avisé, comme nous devons l'être de notre époque. C'est là où il voit la stratégie et il prend position sur une chose. Il tranche en verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est intéressant, il accepte l'éducation païenne. Il accepte quelque part un nouveau nom. Peut-être c'est plus pratique que parfois, dans une autre culture, une autre langue, les noms se traduisent mal. Donc, il accepte le nouveau nom. Mais il prend position au sujet de la nourriture, cette nourriture du roi. Alors la question, qu'est-ce qui est souillant dans les mets du roi, le vin et les mets du roi? Ça fait parler pas mal des commentaires. Pourquoi refuser ça? Certains pensent que dans les mets, il pouvait y avoir des viandes interdites par la loi de Moïse. Ce qui est fort possible. Mais cela n'explique pas le refus du vin. Le vin n'était pas interdit en soi par la loi de Moïse. D'autres disent que c'était certainement des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, qui étaient passées par un culte païen. Et donc Daniel se garde, ne va pas participer à cette idolâtrie, et on trouve ce cas dans le Nouveau Testament. Mais rien n'empêche que les légumes qu'on va leur proposer plus tard ne seraient pas passés aussi par un culte idolâtre. Donc, tout à Babylone ne va pas être conforme aux lois juives alimentaires. Et puis plus tard, vous pouvez vérifier vous-même en chapitre 10, verset 3, Daniel semble ne pas avoir de problème avec la viande et le vin de Babylone. Ça, c'est plus tard, mais il va, pendant quelques temps, il va s'abstenir de la viande et du vin de Babylone. Mais ça montre qu'il pouvait, à ce moment, le prendre. Alors, où est le problème? Est-ce que c'est rituel? Est-ce que c'est contre la loi de Moïse? Mais il y a un détail qui ressort dans ce texte qui nous donne une piste. C'est que chaque fois qu'on parle des mets et de ce vin, on fait mention que cela vient de la table du roi. C'est ce que le roi même buvait et mangeait. Vous voyez ça en verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Encore verset 5. Les mets du roi et le vin dont il buvait. Verset 8. Verset 13. C'est-à-dire, c'est quand même un grand privilège de participer à la table du roi, à manger ce que lui, il mange. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le roi, il va dispenser des avantages en nature qui flattent l'ego, qui les met dans son cercle intime, son cercle des privilégiés, qui achètent leur loyauté, ou bien qui achètent leur silence, de ceux qui en bénéficient de ce privilège. Imaginons un politicien qui va voir quelqu'un et dit, je te donne des tickets resto pour manger dans mon restaurant 5 étoiles tous les jours. C'est possible que tu vas voter pour lui. Et Daniel, il voit un piège pour son cœur, d'une souillure morale. Il se dit, je veux pas que mon âme, je veux pas que mon cœur appartienne à ce roi. Là, si je mange à sa table, c'est comme je dépends de lui pour ma sécurité, mon salut, et mon bonheur, et ma réussite. si je mange à sa table, c'est comme si je me mets dans sa poche. Et peut-être je garde pas ma liberté. Et donc, dès qu'il arrive à Babylone, Daniel, dès sa jeunesse, il prend sagement position sur cet aspect-là. Peut-être ça aurait pu être un autre aspect, mais il choisit la table du roi pour protéger son cœur. Et j'ai envie de dire que la vraie victoire de Daniel et de ses amis était gagnée là, dans ce chapitre, gagnée à la table du roi. Plus tard, il va avoir encore de l'opposition. Mais cette table du roi est souvent plus dangereuse, plus subtile que la fosse aux lions ou la fournaise ardente. La fournaise ardente, bon, il faut se prosterner devant une idole. Ils ont, normalement, on peut dire oui, ça je fais pas. Ou la fosse aux lions, c'est interdit de prier Dieu. Et là, il dit non, je vais quand même continuer à prier Dieu. Mais posez-vous la question, pourquoi il n'y avait que trois amis, ces mêmes trois amis qui n'ont pas adoré la statue dans deux chapitres plus tard, nous allons voir ça. C'était certainement plus facile pour eux de résister, sachant qu'ils ne s'étaient pas déjà mis dans les faveurs du roi. Ils n'avaient pas déjà compromis un peu leur foi ici, dans les privilèges. Se prosterner devant une statue que Nebuchadnezzar va construire plus tard, alors qu'on a bénéficié de son restaurant 5 étoiles tous ces mois. Vous voyez? Alors je vous encourage, quand vous êtes dans un nouveau contexte, vous jeunes qui vous trouvez pour les études ou un nouveau travail, c'est le début, ça se joue souvent. Remportez les petites victoires. Ne faites pas des petits compromis au début et vous serez gagnant, vous serez plus fort dans la suite quand les enjeux sont plus grands. Il n'y avait rien qui interdisait en ce moment à Daniel de ne pas manger ses mets. Mais il voyait le danger pour son cœur, il a refusé. Et ça l'a rendu plus fort lorsqu'il y avait vraiment quelque chose qui ne pouvait pas suivre selon sa conscience. Par exemple, ne pas prier au Dieu. Il était prêt et fort pour le faire. Donc, chaque chrétien va devoir faire des résolutions pour être sûr qu'on n'est pas en train de chercher le salut dans ce monde. Pour être sûr que notre identité est en Christ et pas dans les valeurs païennes. Là où vous allez devoir prendre position n'est pas forcément là où votre frère va devoir le faire. Où un moment dans la vie ne va pas être pareil pour un autre moment de la vie. Mais il faut prendre position pour ne pas se compromettre. Un pasteur donnait cette illustration que j'ai bien aimée. Il disait, en montagne, quand vous faites de l'alpinisme sur un glacier, pour ne pas glisser par-dessus la falaise, vous avez normalement un piolet. Alors vous êtes, voilà, vous marchez, vous voyez que c'est raide, vous voyez qu'il y a un risque de glisser. Parfois, vous sentez, vous commencez un peu à glisser, mais vous voulez quand même avancer, monter. À quel moment vous plantez le piolet? L'un, peut-être un peu plus fragile, lui, il va planter le piolet à telle hauteur ou tel moment. L'autre, un peu plus bas, s'il commence à glisser. Mais l'important, c'est de planter le piolet avant de passer par-dessus la falaise. C'est ça l'important. L'un va le faire à cette hauteur, l'autre va le faire à cette hauteur, mais l'important c'est de planter le piolet avant de passer par le feu. Alors c'est ça la question ce matin, dans votre situation, dans votre vie, dans les choses qui vous entourent, les valeurs qui vous entourent, quelle résolution devons-nous prendre pour garder notre identité chrétienne? Je vous donne quelques exemples, mais je ne veux pas en faire une loi pour chacun, c'est juste quelques exemples comme pour Daniel. Pour certains, c'est, voilà, j'ai résolu que les dimanches matins, je serai à l'église avec ma famille et que ça va passer avant le sport ou le sommeil ou la famille. Sachant que d'autres, vous travaillez et vous avez un métier qui vous oblige le dimanche, c'est pas un problème. D'autres, ça va être pour être sûr que mon âme n'est pas séduite par les richesses que je cherche, que je dépends pas des richesses et de l'argent. J'ai résolu de donner tel pourcentage à l'œuvre de Dieu, comme cela a été rappelé ce matin dans les annonces. Pour d'autres, pour être sûr que ma réputation et mon bonheur ne viennent pas des réseaux sociaux, j'ai résolu de limiter ou de trouver une solution que ça ne prend pas mon cœur. Ou bien pour être sûr que moi et mes enfants ne sont pas en train d'être assimilés complètement dans la pensée du monde, j'ai résolu de participer, de surveiller ce qu'ils apprennent et d'en discuter avec eux. Ou bien j'ai résolu de ne pas faire tel compromis éthique au travail. Ou j'ai résolu de dire la vérité à moi-même et aux autres. Déjà, ça va vous aider à avancer. Voilà des résolutions qui peuvent être prises pour préserver notre identité chrétienne. Donc, ne pas se retirer du monde, mais pour que ça marche, il faut aussi ne pas se compromettre avec ce monde. Et enfin, ne pas avoir peur du monde. C'est sûr qu'il a fallu beaucoup de courage pour prendre cette résolution. 4 jeunes contre l'empire babylonien, même leur patron, leur chef, il n'est pas rassuré. Il dit, mais vous allez exposer ma vie, donc leur chef risque sa vie, d'autant plus eux. Mais ce livre, le but de ce livre, c'est rappeler que Dieu est avec son peuple, même en exil, même dans un contexte difficile. Il dit le verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Ça montre que Dieu n'est pas resté à Jérusalem, là où il y avait le temple qui est sur le point d'être détruit. Le fait que les ustensiles de Dieu sont dans la maison de l'autre Dieu et sont dans une position basse et déshonorable, ça ne change pas que Dieu est là et il reste tout puissant. Verset 15, donc Daniel, avec sagesse, avec tact, avec respect pour son entourage, pour ceux qui ne croient pas comme lui, il propose une solution qui peut rassurer tout le monde. Bon, on fait un essai, éprouve-nous d'abord. Et verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Je me demande parfois si le verset 15 est un miracle, de la même sorte que la fournaise ardente où ils étaient délivrés, ou de la même sorte que les lions n'ont pas mangé Daniel alors qu'ils ont mangé ce qui en voulait à Daniel. Est-ce que c'est un miracle de cette nature-là, ou est-ce que c'est une simple réalité que de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est mieux pour la santé que de manger trop gras, trop sucré et trop salé? Je vous laisse décider. En tout cas, ce que l'auteur veut nous faire montrer, c'est que Dieu est avec eux. Dieu les fortifie. Dieu a béni cette démarche. Dieu a béni cette solution qu'il a proposée. Et cela a marché, cela a fonctionné. En verset 17 encore, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Ça aussi, c'est Dieu qui agit, c'est le don de Dieu. Alors, ces jeunes vont être plus sages que les autres. Pourquoi? Pas forcément un don inné, mais c'est parce que eux, ils connaissent le Dieu des cieux, le Dieu seul sage, comme nous avons chanté ce matin. Le Dieu de vérité, ils connaissent ce Dieu. Ils vivent pour lui. Et donc, eux, Dieu va les accorder, les bénir, les garder. Et le verset, dernier verset du chapitre, très intéressant, verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ainsi fut Daniel, c'était là, dans le service du roi, le meilleur conseiller, un des hommes plus puissants dans le royaume. Il était là, ainsi fut Daniel, jusqu'à la première année du roi Cyrus. La première année du roi Cyrus, c'est bien plus tard. C'est 70 ans plus tard. Le roi Cyrus, c'est même un autre empire. Le roi Cyrus, il fait partie des Mèdes et des Perses qui, eux, vont renverser l'empire babylonien. Donc Daniel, ce jeune, qui va rester là, qui va vivre sa foi, Daniel va survivre à l'empire babylonien. Et ce verset, ça nous met devant cette vérité merveilleuse, qu'une vie fondée sur la sagesse de Dieu, une vie fondée sur la vérité de Dieu, une telle vie est plus forte, plus durable que les empires de ce monde. Daniel était là, il a vu les royaumes venir et passer, les empires monter et descendre. Il était là, parce qu'il connaissait et vivait pour le Dieu. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas besoin d'avoir peur de ce monde et de ses empires, de ses valeurs, de tout ce Babylone, on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que Babylone va tomber. D'ailleurs, c'est toute l'histoire de la Bible. L'Apocalypse termine avec Babylone tombée, la grande ville. C'est Babylone, c'est une vraie ville, mais ça représente aussi tout le système anti-Dieu. Et cette ville va tomber. Cette ville avec ses offres, ses avantages, ses séductions, ses richesses, ses mets, ses luxes. Tout ça, ça va tomber. Et la Bible dit, c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ce monde parce que Dieu est avec nous. Et puis nous le savons encore mieux que Daniel. Parce qu'un jour, un autre courageux, Jésus, il s'est exilé de sa patrie. Il est venu dans ce monde, pas se retirer de ce monde, mais il est venu pour vivre ici, pour apporter le salut. Et lui, il a résolu de marcher sans compromis jusqu'à la croix pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous pardonner, pour nous offrir un royaume sans fin, qui va être un grand thème de Daniel. Ce royaume sans fin, c'est celui qui vient par Jésus, qu'il a acquis à la croix et par sa résurrection, qui va durer sans fin et dans laquelle il nous invite à entrer, nous. Et donc l'invitation qu'on a ce matin, c'est de ne pas vivre pour Babylone, ne pas entrer complètement dans ce royaume. On s'y trouve, mais notre vrai royaume, notre vraie patrie, c'est le royaume de Jésus, le royaume de Dieu. Et c'est le seul qui est sans fin. Et lorsque nous vivons pour ce royaume-là, nous sommes forts et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de toutes les circonstances qui peuvent nous arriver. Alors vivons comme Daniel, vivons comme Jésus, soyez respectueux de votre entourage, qui peut-être ne partage pas votre foi, vos valeurs, mais soyez courageux pour votre Dieu, pour vivre votre foi. Terminons dans la prière. Seigneur, merci pour l'histoire de Daniel qui se retrouve dans une situation comme nous. Nous sommes des dispersés, des exilés. Nous sommes loin de notre chez-nous, loin de chez toi. Et nous devons vivre dans un contexte qui est parfois hostile, qui ne comprend pas ou qui n'apprécie pas notre foi. Nous te prions de nous donner cette sagesse. Jacques nous invite à demander la sagesse à toi, le Dieu seul sage. Et nous te prions de nous donner pour chacun de nous, cette sagesse de savoir comment vivre ici dans ce monde, comment ne pas se compromettre, quelle prise de position nous devons avoir. Remplis-nous de ton courage, remplis-nous de cette assurance que voilà, ce monde passe, mais celui qui est fondé sur toi, qui te connaît, il demeure éternellement. C'est ça qui va nous rendre forts et joyeux pour chaque jour de la vie. Merci pour ce culte que nous avons vécu ensemble. Accompagne-nous cette semaine. Et montre-nous là où nous devons vivre pour toi, là où nous devons veiller et garder notre identité en Christ et ne pas céder aux pressions de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.